Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. On vous emmène en Amérique du Sud avec un conte, en Inde et en Afrique du Sud avec Mandela et Gandhi. Et puis il sera question de Flaubert. Gustave Flaubert est au cœur du nouveau livre du comédien et auteur Jacques Weber. Il rend hommage à l'auteur avec un récit réjouissant qui aborde notamment l'intensité de la vie. Bonjour Jacques Weber.
Bonjour.
Soyez le bienvenu à nouveau dans cette émission.
Merci.
Vous connaissez bien la librairie. Mmh. Alors on n'est pas forcément très positif quand on pense à Flaubert. On n'a pas une image en tout cas très joyeuse avec Madame Bovary notamment. Et pourtant c'était un homme plutôt bon vivant. Très critique, mais aussi contemplatif.
Oui, il y a une légende qui l'appelle l'ermite de Croisset.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est vrai qu'il en avait la volonté, le désir, et que parfois il y accédait, mais que très souvent il était extrêmement mondain, et surtout on découvre dans sa correspondance, contrairement au retirement qui est dans son roman, sur l'écriture de ses romans, on découvre une force, une truculence, une voracité, une sexualité.
Débridée quasiment.
Cutard, viandard, magnifique.
Un peu comme vous, quoi. Décryptage de Flaubert par Weber dans un instant dans la librairie francophone. Il sera question aussi de Mandela et Gandhi. L'année 2018 est marquée par un double anniversaire. Les 70 ans de la mort de Gandhi, assassiné le 30 janvier 1948, et le centenaire de la naissance de Mandela. Éric Vincent et Sophie Viguet-Vincent publient un essai sur la sagesse de ces deux personnages. Et puis nous irons en Amérique du Sud avec l'auteur suisse Reinald Freudiger. Nous parlerons de ces superstitions qui transforment parfois certaines vies.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires sont en multiplex avec nous. On accueille d'ailleurs un nouveau libraire français que vous n'avez jamais entendu. Thomas Auxerre est libraire en France, à Puteaux, juste à côté de La Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Écoutez, très bien, je suis ravi d'être avec vous. Voilà, c'est un grand plaisir.
Bon, plaisir partagé. Vous êtes libraire dans la librairie L'Amandier. Décrivez-nous rapidement cette librairie.
Librairie à taille humaine, librairie avec une clientèle de quartier, enfin des lecteurs de quartier même, plus que des clients. Nous on mise tout sur l'accueil, le côté chaleureux, et puis que le lecteur reparte satisfait. Et je crois que ça marche, les gens apprécient.
Oui, la convivialité.
Exactement.
Profit des livres et de la littérature,
absolument.
De tous les livres, hein, toutes sortes de livres.
À tout, librairie généraliste.
Parfait, merci d'être avec nous. Bonjour merci. Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Tout va bien Dominique?
Tout va très bien, merci.
Figurez-vous que c'est le grand retour de Jérémy Laniel, libraire au Canada, qu'on n'a pas entendu en 2018 encore. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les auteurs et éditeurs, car vous êtes le plus difficile des libraires, mais on verra si les livres vous ont séduit cette semaine.
C'est toujours la question.
Un petit indice ou pas? Non.
Qui sait?
Bon, allez, ok. Merci Jérémy. Déborah Damblon représente la Belgique avec sa belle librairie La Licorne. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
La Licorne qui est aussi sans doute l'une des plus chaleureuses librairies à Bruxelles, celle-ci.
Ça,
rappelez-nous où vous êtes précisément, tiens.
À Uccle, chaussée d'Alsenberg.
Voilà.
Donc Uccle, c'est une chouette banlieue de Bruxelles, pas très loin du lycée français.
D'accord, c'est noté. Merci Déborah. Bonjour Sophie Viguet-Vincent.
Bonjour.
Bonjour Éric Vincent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. Vous publiez un essai sur Mandela et Gandhi. Nous verrons avec vous qu'ils ont beaucoup de choses en commun, mais qu'en même temps, leurs luttes ne sont pas conduites de la même manière. On commence toujours cette histoire par une anecdote personnelle. Alors cette fois, on a fait une petite exception. On vous a demandé de choisir vous-même une histoire personnelle sur Mandela ou sur Gandhi. Qu'avez-vous choisi?
Si on devait en retenir qu'une, il y en a une qui nous a beaucoup marqué pendant la rédaction de ce livre et les recherches qu'on a faites. Elle concerne la circulation incroyable des œuvres complètes de Shakespeare dans la prison de Robben Island pendant les 27 années d'incarcération de Mandela. Alors on avait déjà bien avancé nos recherches et on sentait que Shakespeare était un fil rouge très important dans le parcours de Mandela, qui s'y était référé plus d'une fois pendant son procès, mais également quand il sort de prison. Enfin voilà, Shakespeare est très important et on voulait le prouver. Et alors on cherchait des connexions et alors là on est tombé sur quelque chose de très important, sur ce qu'on appelle la Bible de Robben Island, qui est en fait les œuvres complètes de Shakespeare. Et ce volume a circulé à Robben Island dans la prison. Il a été d'abord adressé à un co-détenu de Mandela qui est d'origine indienne, et qui le lit, qui le fait circuler, et tous les prisonniers politiques de Robben Island vont le lire, l'annoter et souligner leur passage préféré. Pour Mandela, ce sera un passage de la pièce Jules César, qu'il cite souvent. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ce livre arrive recouvert d'une couverture à l'effigie de divinité indienne pour être masqué, parce que sinon il n'aurait peut-être pas circulé dans la prison. Les lectures étaient contrôlées. Et ces divinités indiennes, à quoi elles nous renvoient? Peut-être à Gandhi.
Peut-être à Gandhi.
Voilà.
Le hasard des choses. Alors exactement. Figurez-vous qu'on a trouvé, nous, dans nos archives sonores, une anecdote très drôle sur Mandela racontée par Desmond Tutu. Écoutez.
Tout de suite après son élection, Nelson Mandela a commencé à porter ses chemises aux couleurs un peu criardes, que l'on appelle depuis « chemise Mandela ». Un jour, je lui ai dit qu'il avait un goût abominable. Et vous savez quelle a été sa réponse? Il m'a dit « c'est très amusant venant d'un homme qui porte une robe en public ».
Le rire incroyable de Desmond Tutu, vous la connaissiez cette histoire, Eric Vincent?
Non, pas du tout, mais on entend bien le rire des sages.
Oui, le rire des sages. On va parler de ces deux sages avec vous. On parle de Gandhi et Mandela dans la librairie francophone tout à l'heure. Ce sera avec Sophie Viguier-Vincent et Eric Vincent. Jacques Weber est donc avec nous pour un récit double. Vous racontez une partie de la vie de Flaubert, Jacques, en alternance avec quelques moments de votre propre vie. Comme si Flaubert avait envahi, avait investi la personnalité de Weber. Écrire un roman récit sur Flaubert, c'est assez osé aujourd'hui, non?
Oui, mais j'ai essayé de, comment dirais-je, de surfer sur une légitimité que je m'octroyais, qui était celle d'un acteur qui rôdait autour d'un grand personnage de la littérature, donc qui rôdait près de la littérature. Et c'est ce chemin qui fait que j'ai essayé de reconstituer un peu les ricochets qu'il peut y avoir entre la lecture d'un texte, l'appréhension d'un rôle et votre propre vie. Et il est bien évident qu'à ce moment-là, on trouve fatalement des petits ponts entre soi et
des points communs,
ouais. C'est ce qui crée d'ailleurs cet autre personnage qui est fatalement le personnage que vous interprétez.
Alors que vous venez de renverser votre café, je vais dire à ceux qui nous rejoignent de surtout rester à l'écoute parce que Flaubert est très contemporain et vous le démontrez parce que il est question de bourgeoisie, de sexe, d'amour, de philosophie. Que vouliez-vous transmettre de Flaubert? Quelle était l'intention première, Jacques Weber?
C'est ce paradoxe permanent, ces grand écartèlement qu'il y a entre l'ermite de Croisset, l'homme douloureux, l'homme terrorisé par la mort dès l'âge de 7 ans, dans ses écrits très très jeunes et même dans Novembre, il y a déjà des traces qui sont toutes proches du suicide. Il ne faut pas oublier que ce môme regardait par le soupirail son père, qui était un grand chirurgien de l'époque, faire des autopsies, voire découper des cadavres. Je crois que ça marque toute son œuvre. Mais derrière, ce mysticisme presque noir, il y a une gourmandise, il y a un appétit de la vie, particulièrement lorsqu'il est jeune. Oui, lorsqu'il est jeune, c'est réellement un cutard, oui, c'est vrai.
Ah, c'est ça, c'est un cutard.
Et il s'en vante même tellement qu'on pourrait même se poser des questions sur la réalité des faits lorsqu'il dit « j'ai tiré 4 coups, c'était une nana
». Ça vous plaît, hein, Jacques Weber, ça.
La femme entretenue envahit la débauche comme le journaliste de la poésie, ça je trouve, ça j'ai bien aimé cette phrase.
Oui, le côté paillard, comme ça, de Flaubert.
Mais c'est beau la paillardise, parce que paillardise est une espèce de chanson de la contradiction de la vie permanente. Et ça, ce grand écart, on le constate chez beaucoup d'acteurs, chez beaucoup de gens de lettres, chez beaucoup d'êtres humains. Regardez ce que j'en parle dans le bouquin, mais je parle d'Étienne Rodagil qui me fascinait, mais je parle aussi de Gérard Depardieu. C'est vraiment cet écart tellement là, ce jeu extrêmement féminin, délicat, totalement épuré, comme la langue de Flaubert dans Madame Bovary, et puis ces espèces de grands éclats d'ogre qui vous bouffent 4 entrecôtes en 5 minutes au petit déjeuner.
Et avec cette envie permanente, je cite, de foutre au bout du gland.
C'est ce que vous
écrivez plusieurs fois, vous vous régalez, Jacques. Bourgeois un peu comme vous aussi, Jacques Weber. Alors, vous assumez ce statut de comédien de théâtre en bourgeoisie?
parce que j'ai même pas l'assumé, c'est que c'est la réalité de 80% des gens de mon métier qui travaillent. Nous sommes généralement soit dans une classe bourgeoise, soit nous y aspirons de par les chemins de la réussite qui nous attire tant. Alors maintenant, comme le fait très très bien Flaubert, faut bien discerner l'esprit bourgeois, la pensée bourgeoise et le statut bourgeois. Mais ce qui est formidable, c'est que alors si Flaubert est un bourgeois, c'est bien lui. Il peut même, c'est même au-delà, puisqu'il peut vivre de ses propres rentes, mais il est dans une maison extrêmement cossue, il y a eu une fortune, il y a tout ça. Simplement, ce que je trouve formidable, c'est qu'il ne dit pas vivre en bourgeois et penser en Dieu, il dit en demi-dieu.
En demi-dieu. Oui, en demi-dieu. Qu'est-ce et que ça veut dire, ça,
j'ai l'impression que c'est ce petit pont encore entre l'humain et le divin, quoi. Et cette espèce de contradiction qu'il y a entre vivre en bourgeois, penser en demi-dieu, c'est exactement la contradiction des acteurs avant et après l'entrée en scène.
Alors, on trouve justement cette réplique dans ses correspondances avec son ami Louise Collet en août 1853. On peut d'ailleurs retrouver toute la correspondance de Flaubert en 5 volumes dans la Pléiade.
Ouais,
correspondance.
5 volumes. Qui subsistent, puisque comme vous le savez, au départ, il ne voulait pas, enfin, il le disait, ne voulait pas être édité.
Et surtout, c'est sans doute le plus intéressant dans l'œuvre de Flaubert, la correspondance. Plus intéressant que ses romans.
Ah, ça, je crois pas.
Bon, c'est un avis personnel. Bon, en tout cas, c'est un personnage ambivalent, hein, Gustave Flaubert. Laborieux, vous racontez qu'il s'impose d'écrire chaque jour des lettres, la suite d'un roman et de lire un chef-d'œuvre. Et en même temps, c'est un personnage contemplatif qui est attaché aux détails et aux réflexions sur l'existence. Il est d'ailleurs fan de Balzac, très inspiré par Balzac, lui-même attaché aux détails, à l'existence.
Oui. Alors, à ceci près que Balzac lui observe une société et que Flaubert observe un individu, de façon presque entomologique, quoi. Enfin, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je compare maintenant avec cette facilité déconcertante et dangereuse de Google, où on peut s'informer sur tout. Par exemple, si vous écrivez sur un pharmacien, bah, vous allez développer tout, pharmacie, pharmacien, pharmacologie, etc. Bon, lui, il décide justement cette notion du détail. C'est un travail de titan. Il donne ce conseil, je ne sais plus à qui, je crois que c'est à Maupassant, où il dit, tu regardes un arbre, et tant que tu n'es pas capable de le décrire, tu ne bouges pas de devant cet arbre. Ouais. Ça, c'est magnifique.
Flaubert, qui est
et
un
ça
maître,
me rappelle
hein,
les très grands metteurs en scène, qui sont des gens qui travaillent le détail, comme un fou.
L'ambivalence de Flaubert, c'est aussi de détester son siècle, mais d'en avoir besoin pour écrire. De fréquenter les salons de la bourgeoisie parisienne pour pouvoir mieux les critiquer, de dévorer les femmes dans une sexualité presque animale et de leur écrire ensuite de longues lettres, à Louise Collet notamment, et c'est de là que l'on tire ses correspondances, car il aimait beaucoup écrire, Gustave Flaubert, ce n'était pas un sauvage en société, pas du tout.
Non seulement il écrit à Louise Collet, qu'il trompe souverainement, qu'il envoie balader, ça c'est un des chapitres que j'ai réinventé par rapport à ce qu'il écrit, c'est que vous vous rendez compte que faire Paris-Rouen à l'époque, c'est considérable, c'est ou le train ou la calèche, je pense que c'était quand même le train pour ce qui concerne Louise Collet, mais vous vous rendez compte, cette femme célèbre, célébrée à Paris, se tape le train, veut à tout prix le voir, elle est à la porte de Croisset, et il l'alourde, il dit non, je peux pas, je travaille, m'emmerde pas. Et après, il est totalement sidéré qu'une fois de plus, elle lui dit adieu, je te quitte, c'est fini, c'est terminé. Il dit mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je deviens commun et bedaine à faire vomir? Et il a cette phrase hallucinante, il dit, est-ce que j'entre dans la classe de ceux que la putain est embêtée de piner? C'est totalement fou. Mais Dieu merci, il y a bien d'autres choses.
Ah oui, il y a plus de choses que ça, heureusement. Oui.
Mais vous savez, il y a aussi la correspondance avec Georges Sand, il y a la correspondance avec Tourguenieff qui est absolument splendide, il y a la correspondance avec ses copains Louis Bouguet.
Ah mais 5 volumes dans la Pléiade, c'est fou, donc il y en a.
Avec les Goncourt, qui n'arrêtaient pas de
les frères Goncourt,
mais en même temps qu'il l'aimait bien. Alors ils se réunissaient tous dans un resto pour se taper sur la tête les uns sur les autres.
Trois libraires ont lu votre livre, Jacques Weber, La France, la Suisse et le Canada. On commence par qui en premier?
La France, il est là.
Allez, Thomas Auxerre, allez-y Thomas.
Eh ben alors, Jacques, donc j'ai lu votre livre. Alors au début, j'étais un petit peu perdu parce que j'ai pas réussi à déterminer si c'était un roman, un essai littéraire, une biographie. Bon, après, je me suis laissé aller. Mmh. Et puis, je suis tombé dedans. Moi, le livre m'a plu. Vous donnez vraiment chair à ce personnage de Flaubert que j'imaginais pas comme ça. Vous le dépoussirez, clairement. Moi, ça m'a vraiment donné envie de relire son œuvre. Et puis même, pour tout vous dire, je pense que la prochaine fois que j'aurai des lycéens, parce que c'est beaucoup de lycéens qui viennent chercher du Flaubert, en prescription scolaire, des fois, ils font un peu la tronche ou ils traînent un peu les pieds.
Eh oui.
Là, franchement, je leur montrerai votre livre et puis je leur éventuellement évidemment, je leur soumettrai quelques extraits. Enfin, voilà.
Très bonne idée.
Ouais. Ah, bah,
très bonne. C'est une bonne idée, ça. Hein.
C'est très, très, très plaisir. Ce que je voulais simplement dire, j'ai pas eu d'envie pédagogique. Et en plus de ça, comme je ne suis pas un homme de lettres, moi, j'ai un grand problème, c'est structuré. Parce que quand vous dites que vous êtes un peu perdu au début, bah, moi aussi, j'étais perdu. et voilà. Et maintenant, il faut que j'apprenne ça. Parce que oui, j'ai résolument l'envie d'écrire et d'écrire de mieux en mieux. Et la structure, c'est fondamental. Quoi. Ouais.
Et on pense à tous les collégiens et lycéens qui vont se frapper Madame Bovary. Parce que quand on a cet âge-là, c'est pas facile. On va aller du côté de la Suisse.
On peut tomber amoureux de Madame Bovary, se dire après qu'on s'est peut-être trompé. Mais moi, quand j'étais môme, j'adorais Madame Bovary. C'était pour moi, c'était comme Madame de Rénan ou comme, je sais pas, enfin, grande amoureuse, merveilleuse et passionnée.
On va aller du côté de la Suisse. Tiens, Dominique Bressoux, êtes-vous d'accord avec votre collègue français?
Ah mais tout à fait, moi j'ai été très très impressionnée par cette lecture et en fait Jacques Weber est tellement habité par cet auteur qu'on a l'impression qu'il se sent comme un frère jumeau par-delà les siècles et j'ai trouvé vraiment magique la façon dont vous vous glissez dans la peau de Gustave Flaubert jusqu'à prendre le vocabulaire de l'époque d'une richesse dont on peut regretter l'absence dans les romans actuels. J'ai adoré.
Bah écoutez, je sais pas quoi répondre, je suis très...
Attendez, il y en a un dernier, c'est le plus dur.
Bah oui, vous m'avez dit que c'était le plus dur.
Jérémy Laniel, ok. Canada, qu'avez-vous pensé de ce livre?
Pas du tout. Non, je reviens souvent à Flaubert, un peu comme nous tous, bon, à part Emmanuel qui semble préférer les correspondances à Madame Bovary, que moi j'adore personnellement. Donc me plonger dans cette fausse biographie que j'ai peut-être un peu plus lu comme une lettre d'amour à Flaubert, dans laquelle les mots de l'auteur côtoient ceux de ses correspondances, ben, c'est fait sans prétention, du moins je l'espère. C'est léger, c'est efficace et j'ai passé un bon moment.
Bon.
Ben, je vous remercie, incroyable. Mais cette légèreté, je ne sais pas si c'est le mot qui convient à ma personne un peu abondante, mais en tout cas, j'ai espéré rester très léger et très humble, parce que quand on est devant un tel monument, et puis c'est mon rôle d'acteur, c'est-à-dire quand on est, il faut pas avoir d'a priori ou être totalement abasourdi par le génie ou par la mythologie, par exemple, de Don Juan. Nous, notre boulot, c'est de trouver l'humilité du muscle, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai essayé très, très humblement de faire. Oui,
voilà. Et de partager vos expériences,
si ça se partage,
vos passions.
C'est formidable.
C'est ça que vous faites, hein. Vous racontez un voyage au Liban, notamment. Il y a un passage très touchant sur un voyage au Liban pendant la guerre.
Quand vous lisez les voyages en Orient, quand vous lisez par les champs et par les grèves, c'est tellement, ça donne une telle envie de voyager que ça m'a renvoyé à moi mes grandes balades en Bretagne ou mes grandes balades en Orient. Et quant au bordel parisien, ça m'a renvoyé au bordel que j'ai connu à une époque au Chili. Oui.
J'allais dire cette volonté d'être utile, mais en fait, les bordels. Vous étiez bien parti, ça faisait un super enchaînement.
Oui, mais c'est ça la surprise.
Et hop, les bordels, quoi. Bon, on va être utile un peu, écoutez quand même.
Très bien.
Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la.
D'Agile, moi, ça me bouleverse. En plus, là, il chante très bien.
Julien Clerc.
Julien.
Ouais.
Mais c'est une des dernières chansons, je crois, d'ailleurs, d'Étienne.
Ouais.
Mais c'était, alors, lui, voilà, c'était moi, je voulais qu'il joue parce que je l'avais croisé en train de discuter, à la closerie des Lilas avec un autre, Solers.
Ouais.
Et je voulais qu'il joue le neveu de Rameau, les deux. Et que Rodagil aurait joué un neveu de Rameau formidable, parce que c'est une espèce de perdant de génie, avec les doigts jaunes par les clopes et tout, c'était magnifique, vraiment c'était magnifique.
Elle pourrait être la bande originale de votre livre, hein, cette musique de Julien
Clerc. Dans quel sens? Dans le sens de l'utilité.
De l'utilité, puis de la fréquence aussi que vous avez de parler de l'utile et de citer cette chanson et de citer Rodagil plusieurs fois.
Ben oui, parce que Rodagil, je crois qu'il avait aussi, il avait ce tempérament dans la discussion de la broussaille, de générosité qui se perdait un peu dans tous les sens. Et c'était extraordinaire, il disait sur n'importe quel sujet, il dit « Ah, mon ami, j'ai la came. » Alors moi, il devait m'écrire une pièce sur Michel-Ange, j'en ai jamais vu le bout, mais peu importe, les discussions que j'ai eues sur Michel-Ange, et moi j'étais responsable d'un théâtre public, donc vous voyez, c'était quand même un peu emmerdant que j'en vois pas le bout. Et c'était des voyages absolument hallucinants, ce génie de la digression. Ouais. Et ça, Flaubert l'a totalement dans sa correspondance.
Et qu'est-ce que c'est être utile pour vous aujourd'hui, Jacques Weber ?
C'est une très bonne question, mais j'ai l'impression que c'est peut-être réentretenir l'utopie. Vous allez parler tout à l'heure de Mandela et Gandhi. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ils nous rappellent très violemment que c'est l'utopie qui a toujours bougé le monde. Contrairement à ce que disent les politiques, c'est soit des gens solitaires, soit le peuple qui a bougé les États. C'est jamais le contraire. Donc toutes ces grandes, Mais être utile, c'est peut-être rester utopique et toujours pratiquer l'esprit de liberté.
Très bien, vous allez rester avec nous pour parler de Mandela et Gandhi. On va juste terminer avec cette phrase que vous confiez dans ce livre alors que vous vous mettez à écrire. Comme Balzac, je me drogue au café. Comme Flaubert, je me gratte souvent les couilles puisque je n'ai personne à qui parler.
Voilà. Bah oui, je trouve ça marrant. Ça me fait rire tout seul.
Ça fait rire aussi.
Mais parce qu'en plus, c'est vrai, ça sort du cœur, pour ne pas dire ça sort de la culotte, mais c'est vrai. Voilà.
Bon, merci Jacques Weber.
Merci à vous, merci à vous.
Vivre en bourgeoisie, penser en demi-dieu, Gustave Flaubert par Jacques Weber, un livre publié par les éditions Fayard, un petit ovni littéraire réjouissant en cette rentrée de janvier. À suivre Mandela et Gandhi donc, la sagesse peut-elle vraiment sauver le monde? C'est la question que nous poserons. Avant cela, voici la douceur de la chanteuse belge d'origine égyptienne, Natacha Atlas. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. Natacha Atlas, Le goût du pain, titre de 2001 sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
Mon message à ceux d'entre vous engagés dans ces combats fratricides est le suivant.
Take your guns.
Prenez vos armes à feu, vos couteaux et vos lances et jetez-les à la mer. Oh,
la librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Éric Vincent et Sophie Viguier-Vincent sont dans la librairie francophone pour un essai sur Mandela et Gandhi paru chez Albin Michel. Peut-on imaginer retrouver un jour des personnalités politiques comme eux quelque part dans le monde ?
Écoutez, je crois qu'il y en a encore. Hein. Alors, on ne les connaît pas forcément, ils n'ont pas la notoriété. Quand on a essayé de voir aujourd'hui justement comment vivait cet héritage, on a vu par exemple qu'en Israël, en Palestine, des deux côtés, on a des figures de type gandhien ou mandélien. On va voir que c'est...
Qui s'en inspire.
Ouais. Oui, qui s'en inspire, qui s'en réclame même. Hein, qui vont, par exemple, il y a un courant non-violent en islam dont on parle très peu, mais qui existe. On devrait en parler un peu plus, je pense. Et puis, il y a d'autres figures. Hein. Il y a, je crois, vraiment un héritage sous-estimé de ces deux figures.
Alors, Mandela et Gandhi ont des destins croisés, des points communs. L'Afrique du Sud, bien sûr, puisque Gandhi, avant de retourner en Inde, va commencer son combat en Afrique du Sud après ce fameux voyage en train qui le mettra face à la réalité de la discrimination. Discrimination à deux niveaux. Les Indiens et les Noirs ne sont pas discriminés de la même façon lorsque Mandela est jeune. Lui, c'est dans un bus qu'il va prendre conscience de la ségrégation raciale ordinaire.
Alors, je ne sais pas si sa prise de conscience commence là, mais c'est un...
Un déclic, en tout cas.
Ça fait partie de l'un des déclics qui réveille sa conscience politique. Et comme Mandela, quelques années plus tôt, il est jeté d'un tram parce que ce tram est réservé aux Blancs et aux Asiatiques. Mmh. Or, il est avec un ami indien, un étudiant, qui se défend. Et Mandela est même traité de kafir, ce que ne supporte pas ni Mandela ni son ami Singh. Ils sont jetés dehors, mis en prison. Et en fait, l'affaire s'arrange parce que... un ami blanc, un étudiant blanc fait intervenir des relations.
Alors voilà, ça c'est le point commun, hein, je dirais, le point commun de départ. On ne va pas raconter l'histoire de l'apartheid et l'histoire de l'indépendance de l'Inde, parce que vous le faites très bien à travers ces deux personnages et puis on en sait beaucoup de choses. On va s'attacher à la figure de Gandhi et Mandela qui, ensemble finalement, à des époques différentes, vont mener le même combat, ou presque. Presque parce qu'au début, ils n'ont pas les mêmes méthodes de résistance. Mandela va prendre les armes, lui.
C'est pas tout de suite.
C'est pas au début, justement, en fait. C'est-à-dire que on pourrait dire Mandela, il est d'abord gandhien parce que toute l'ANC, donc le parti auquel il appartient, qui est le fer de lance de la lutte contre l'apartheid à l'époque, est non-violent et est marqué par la figure de Gandhi et les méthodes gandhiennes. Et Mandela va s'en distancier progressivement au cours des années 50 jusqu'à prôner officiellement la lutte armée.
Oui, la guérilla.
La guérilla.
Il va se former, mais ça ne lui plaît pas d'ailleurs.
Exactement. C'est pas trop son truc. Non. On sent que c'est pas un homme qui aime vraiment se servir des armes. Le fait est qu'il est convaincu que la non-violence n'a pas fonctionné, en fait, hein, que ça fait des décennies que cette voie a été suivie sans résultat tangible. Et donc c'est à ce moment-là qu'il se rallie à la lutte armée, mais il va être emprisonné.
Ouais.
Et on pourrait dire que d'une certaine façon, ça lui a permis de ne pas en rester là et de continuer à évoluer.
Ça l'a assagi. On va y revenir. Ouais. On va revenir aussi à Gandhi qui, en 1906, fait vœu de chasteté. Là aussi, c'est un moment clé parce qu'il restreint son alimentation à ce moment-là. Il découvre le végétarisme à Londres quand il va là-bas. Et puis, il se soigne par des éléments naturels. Il renonce aussi au confort occidental. Il s'oppose au consumérisme. Et le moine soldat va s'opposer comme ça, d'une certaine façon, à l'Empire britannique, avec une méthode passive et inédite.
Tout à fait. Donc en 1906, il prend ses vœux de Brahmacharya, qui correspond à ses vœux de chasteté et de frugalité, qui sera poursuivi par ce qu'il appelle le vœu de Satyagraha. Deux ans plus tard, lors de meetings politiques, cette idée de lutte non violente, de résistance non violente à l'ennemi, naît à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on a l'image d'un Gandhi très ancré en Inde avec la non-violence, ses jeunes, etc. Et en fait, tout commence en Afrique du Sud au début du XXe siècle.
Pourquoi est-ce qu'il se décentre comme ça? Pourquoi il veut, comme il dit, contrôler ses pulsions? Il perd pied à ce moment-là avec toute cette façon de vivre?
Je pense que c'est un processus qui a commencé déjà depuis longtemps, déjà en Inde, à la lecture de certains livres importants. Ouais. Et donc, il va vers c'est un processus de simplification qui correspond tout à fait à la tradition indienne de non-violence, d'ahimsa, ce qu'on peut dire, de non-nuisance à autrui.
Oui, puis c'est le travail sur soi aussi. C'est en fait cette idée que si on ne veut pas être violent à l'égard des autres, il faut déjà commencer par régler un certain nombre de problèmes avec ses propres passions. Et c'est pour ça que, par exemple, Gandhi établissait des liens entre l'alimentation et la sexualité pour revenir à ce qu'on dit tout à l'heure à propos de Flaubert. Par exemple, du point de vue de Gandhi, manger très épicé, ça exalte vos sens et ça vous met dans un état de sensualité qui peut se traduire par des désirs sexuels. Mmh. Et qui peut aussi, à long terme, avoir rapport aussi avec votre attitude politique. Donc voilà, il y a cette cohérence de l'individuel et du collectif.
En 1930, Gandhi se confie à un journaliste américain. On a retrouvé ce son. C'est très troublant, écoutez.
Si l'Angleterre n'accède pas à votre demande, êtes-vous prêt à retourner en prison?
Je suis toujours prêt à retourner en prison.
Seriez-vous prêt à mourir pour la cause de l'indépendance de l'Inde?
C'est une mauvaise question.
Pourquoi est-ce une mauvaise question?
Parce qu'elle était évidente pour lui, il était évidemment prêt à mourir pour l'indépendance de l'Inde. Et je pense qu'il avait, voilà, il s'était totalement affranchi de la peur, à la fois d'être en prison, peut-être de mourir, dans ces campagnes de non-violence lancées en Afrique du Sud.
Alors ça, c'est la dignité. Mandela parlera de ça. Hein. Il dira, la dignité, c'est important. Gandhi était digne, lui aussi a été digne. Et vous racontez que Mandela va prendre toute son ampleur à partir du moment où il est en prison. C'est là qu'il va atteindre la sagesse à travers ses lectures, on en parlait au début de l'émission, la religion aussi, pas autant que Gandhi, mais quand même, hein, parce qu'il participe à tous les offices religieux en prison. Mmh. Et puis surtout, il côtoie toutes les communautés dans une grande fraternité. Et l'erreur de l'administration pénitentiaire à l'époque, c'est de laisser justement tout le monde se côtoyer. On n'isole pas Mandela. Pas tout de suite, en tout cas.
En tout cas, il y a ce qui est clair déjà, c'est qu'il faut rappeler que l'Afrique du Sud, c'est une mosaïque. On ne le sait pas forcément, mais il y a une mosaïque de peuples et de religions. Et ces deux hommes sont les fruits, au fond, de cette mosaïque. Et cet idéal aussi de non-violence et de fraternité universelle, il est lié à ça. C'est-à-dire qu'en fait, face à la dictature et l'horreur de l'apartheid, eh bien voilà, il y a toutes les ressources qui sont rassemblées. Et en effet, en prison, on voit comment Mandela va se nourrir, en quelque sorte, s'abreuver à plusieurs sources. Alors, il y a la source chrétienne, en effet. Même si c'est toujours très compliqué. Mandela est très pudique. Il en dit peu, hein, alors que Gandhi se répand sur son vécu intime et spirituel et aussi des questions de sexualité et autres. Chez Mandela, on n'a pas du tout la même chose. Hein. Il y a une pudeur, mais on sait que voilà, il a dit quand même des choses aussi beaucoup plus tard après sa sortie de prison sur l'importance qu'avaient eu les religions dans cette lutte contre l'apartheid. Mmh.
Il dira aussi parler de la nécessité de la méditation. J'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si on gardait le moral. Très important de garder le moral dans toutes circonstances. Il y a deux libraires qui ont lu votre essai. On va du côté du Canada ou de la Belgique. On commence par qui? Tiens, Éric Vincent.
Belgique.
La Belgique. Allez, Déborah Damblon.
Eh bien, moi, j'ai trouvé que ça en faisait des informations à assimiler. Parce que déjà, un de ces deux grands messieurs, c'était pas rien, mais là, les deux à la fois, je dois dire qu'à certains moments, j'étais un petit peu perdue, je nageais. Mais en même temps, il y a votre perspective qui est intéressante, et puis, somme toute, qui est assez claire. Et au bout du compte, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, en nous donnant des exemples pareils, vous arrivez, à notre petit niveau, à nous donner envie de prendre les choses en main, nous-mêmes, et ça c'est le plus important.
Ça commence par là. Le Canada, Jérémy Laniel.
Je vais être honnête, je n'ai pas l'habitude de lire des biographies, encore moins des livres de sagesse, de spiritualité. Donc vous dire à quel point au départ, j'étais un peu à côté de mes pompes dans cette double biographie spirituelle. Par contre, elle est fouillée. Les auteurs ont trouvé une splendide chambre d'écho entre les deux hommes. Bien que ce n'était pas ma tasse de thé, le livre fait son travail et bâtit les ponts que les auteurs voulaient bâtir.
Bien.
Ouais, merci beaucoup.
Il est bienveillant, Jérémy, en 2018. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Non, puis il a pris de la tisane.
Le pont, c'est ça. Je crois que nos deux amis libraires ont souligné cet aspect C'était notre préoccupation fondamentale. Hein. C'est comment se rapprocher de ces figures. Et on ne voulait pas qu'ils soient enfermés dans cet éloignement par rapport à nous. On voulait se rapprocher d'eux.
Jacques Weber, vous pourriez interpréter Mandela ou Gandhi, vous? Ça vous a effleuré l'esprit ou pas?
Oui, enfin, ça me plairait énormément. Ça ne veut pas dire pour ça que j'aime beaucoup ce terme de dignité. C'est cette chose que vous disiez qui est très, très pertinente. C'est trouver la cohérence entre l'individuel et le collectif. C'est toute la grande, grande difficulté de chaque individu, puisque notre vie est une sorte de court terme dans le long terme de l'histoire, quoi. Et ça, c'est très, très dur à organiser. Mais moi, j'adore. La sagesse peut-elle changer le monde? Oui.
Alors,
mais
justement,
là où ça devient totalement contradictoire, c'est que la sagesse passe parfois par les armes.
Ouais, alors justement, est-ce qu'elle peut vraiment changer le monde? Parce que vous ne répondez pas vraiment dans ce livre. Hein. J'ai été un peu déçu, moi, de ce côté-là, parce que je m'attendais quand même à avoir des grandes révélations ou une analyse qui nous permettait quand même d'avancer. Et quand on voit effectivement les États-Unis, par exemple, qui élisent des personnages comme Donald Trump, on se dit que Mandela, Gandhi, en tout cas des équivalents aujourd'hui, on n'est pas prêt de les accueillir.
Je pense qu'en fait, la sagesse n'a jamais fini de changer le monde. C'est en cours. Et ce que nous ont montré Gandhi et Mandela, c'est que c'est un processus long. C'est un processus individuel intérieur qui prend du temps. On devient pas sage en 6 mois. Ça a mis 27 ans pour Mandela et une vie pour Gandhi.
Mais ça avait un terrain propice, je dirais. Il y en a qui ne deviendront jamais sages.
Je dirais que
Trump ne deviendra jamais sage.
parce qu'il est Trump et parce qu'il a choisi aussi. Je pense qu'il y a aussi une dimension de choix. Ils ont choisi.
Bien sûr.
Et il y a des gens encore aujourd'hui qui font le choix de la sagesse, le choix de la frugalité, le choix de l'honnêteté, le choix du combat, le choix de la justice. Donc, je pense que, en tout cas, la sagesse n'a jamais fini de nous inspirer pour changer le monde.
En tout cas, ça n'a pas marché en Afrique du Sud. Parce que quand il arrive au pouvoir, Mandela, finalement, le pays est encore à feu et à sang. Et là, ce sont les Blancs qui se font massacrer.
Plus ou moins, justement. Ce qu'on dit, c'est que... Bah, pas autant que ça aurait pu être. C'est-à-dire que, on dit par exemple qu'il y a eu des aspects de guerre civile, mais il n'y a pas eu de conflagration générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de massacre général. Mmh. Ça aurait pu tourner comme ça.
Et donc, 2500 fermiers blancs, quand même, se font massacrer, assassinés, hein, entre 1994 et 2009. Alors, certes, ça prend du temps, mais ils sont tués.
Bien sûr, chaque vie humaine perdue, c'est une vie de trop. Néanmoins, par rapport à ce que ça aurait pu être, on peut considérer, c'est ce que tous les analystes ont dit, c'est que c'était une transition réussie. Alors après, toute la question, c'est l'après, justement.
Ouais,
c'est là où. C'est la question des successeurs de Mandela. Et là, il y a des actualités là-dessus aujourd'hui, sur la difficulté de faire progresser ce pays,
de stabiliser le pays.
Parce
que ce qu'il se passe aussi, c'est que quand Mandela est élu, quelques années plus tard, il y a 900 000 blancs qui quittent le pays, qui déstabilisent la société sud-africaine, aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus violents au monde.
Bien sûr.
Avec l'héritage de Mandela, ça fait mal, ça.
Et on pourrait dire comme l'Inde, d'ailleurs, aussi. C'est-à-dire que les pays où de grandes non-violences se sont révélées sont des pays marqués par la violence.
Oui.
C'est assez logique, quelque part, aussi.
Alors l'Inde, c'est encore autre chose, parce qu'eux, ils se sont lancés dans le consumérisme, ce qui est l'antithèse de la pensée de Gandhi.
Oui, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect identitaire, aussi. Hein. N'oublions pas que l'Inde est aujourd'hui gouvernée par un parti nationaliste identitaire, qui va, là aussi, à l'opposé de la voie gandhienne.
Bien, voilà, il reste du travail à faire.
Merci. C'est pour ça qu'on fait des livres.
Oui, c'est ça, vous avez raison, c'est pour ça qu'on en parle. Merci Éric Vincent, merci Sophie Viguier-Vincent.
Merci.
Votre essai sur Mandela et Gandhi est paru chez Albin Michel. À suivre, un conte qui va vous emmener en Amérique du Sud avec une petite surprise et toujours Jacques Weber en plateau. Le Suisse Reinald Freudiger vous parle des superstitions qui peuvent contrarier une vie entière. Et voici le nouveau titre de Raphaël dans la librairie francophone.
Les gens s'en foutent. Les gens sont sans histoire, ils s'embrassent dans le noir. Les gens s'endorment sous les gens se disent tout. Et puis plus rien du tout, ils dorment un peu moins tard. Ne dorment plus du tout, mais toi, 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 tu n'es pas comme eux, toi, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier. Jamais oublié, toi, tu n'es pas comme eux, toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Les gens sont fous, ils regardent les étoiles et puis tirent en l'air à coups de revolver. Les gens se conduisent mal, ils achètent le journal. Trouve que le monde va mal, que tout est immoral. Mais toi, toi, tu n'es pas comme eux. Toi, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Tu n'es pas comme eux. Toi, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier. Les gens sont sans histoire, les gens sont dérisoires et comptent plus que tout. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier.
Raphaël, les gens sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Et bonjour Reynald Freudiger.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais très bien.
Vous êtes un écrivain novelliste vaudois. Vous êtes donc suisse. La véritable histoire de Luz Nieve est un conte qui se déroule en Amérique du Sud. On ne sait pas vraiment où, peut-être en Colombie, au Costa Rica ou au Nicaragua.
Ou au Honduras, quelque part.
Peu importe. C'est pas
fond.
Le problème.
Non, c'est pas le problème.
Luz Nieve, dès sa naissance, est une fille qui perturbe la vie de son village. Elle n'est pas née au bon moment ou il y a eu un concours de circonstances qui fait que...
Sans doute un concours de circonstances ou alors simplement le conte qui commande finalement la naissance d'un personnage dans des circonstances qui sont extraordinaires.
Quel genre de circonstances? Alors racontez-nous, les saisons qui se dérèglent par exemple?
Les saisons qui se dérèglent, la neige sous les tropiques, ce genre de circonstances, disons, fabuleuses.
Qui arrivent à ce moment-là,
voilà, des circonstances en fait, qui sont des circonstances mythologiques, c'est-à-dire que tous les personnages de la mythologie, de l'Antiquité, de la mythologie, naissent à des moments très importants, quand le temple d'Éphèse brûle, Alexandre le Grand voit le jour, quand Jules César meurt, une comète passe dans le ciel, ici Luz Nieve, c'est la même chose, c'est un personnage de fiction qui naît alors qu'il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire.
Le soleil se couche d'ailleurs quand elle naît, à 12h30, on n'a jamais vu ça, la quiétude du village aussi est perturbée parce qu'il se passe des choses pas terribles et on associe justement la présence de cette fillette dans le village aux événements incontrôlés ou improbables.
Oui, elle est assez rapidement désignée comme une sorcière, comme quelqu'un qu'il faut isoler, comme quelqu'un qu'il faut cacher, quelqu'un qu'il faut contrôler d'une manière ou d'une autre, garder, surveiller, parce que sa seule présence déstabilise le village entier, la communauté entière.
Alors on va la bannir du village, c'est terrifiant.
On finit par la bannir,
on va écouter le son du monde de la semaine. Le principe aujourd'hui, une musique du monde habillée d'une voix. Cette voix va lire un extrait de votre livre, Reynald Freudiger, et c'est Jacques Weber qui est face à vous, grand comédien, qui était là en début d'émission, si vous nous rejoignez il faut écouter le podcast. Et Jacques Weber donc a accepté, sur une musique colombienne traditionnelle, de lire cet extrait au son du banc.
La sentence fut immédiatement exécutée. Luz Nieve fut accompagnée bien loin du village par une poignée de volontaires. Après 2 jours de marche, on lui donna quelques bananes, quelques galettes de maïs, un peu d'eau, et on lui montra le chemin de la capitale. Ceux qui l'avaient accompagné rentraient au village avec la satisfaction du juste. La sorcière ne reviendrait plus. Ce fut un soir de fête. Une grande table fut dressée au centre du village et tout le monde fut convié à venir célébrer l'avenir radieux qui s'annonçait enfin. Les discussions allaient bon train, on ne se priva pas de sourire et de rire, on dansa.
La voix de Jacques Weber sur ce bandoneo. Une réaction, Reynald Freudiger.
Un honneur immense d'entendre cette voix et lire cet extrait.
Si,
ah oui, un honneur.
Voilà, c'est notre cadeau.
Merci.
Vous reviendrez peut-être du coup.
Je reviendrai certainement.
Pardon, Jacques Weber.
C'est un beau texte, tout simple.
C'est vrai, hein.
Qui dit les choses. Ouais. On danse ça, c'est merveilleux, ça.
Vous écrivez aussi, il suffit ordinairement de bien peu de choses pour que les hommes sombrent dans une superstition crasse et se croient obligés de courber les chines devant ce qu'ils pensent être des signes prophétiques.
Oui, ce texte est un conte. Mais c'est un conte qui, à différents moments, disons, joue avec les différentes croyances qui peuvent rythmer la vie de Luz Nieve, les croyances, disons, superstitieuses de son enfance, des croyances catholiques liées à un personnage qu'elle rencontre plus tard, des croyances plus protestantes au moment où elle arrive en Suisse, et puis que, oui, toutes ces croyances structurent non seulement des imaginaires, mais des réalités, des
ça détruit
des violences
vies parfois.
Aussi, exactement.
Ouais. En tout cas, ça perturbe, ça transforme des vies. On va laisser la place à nos libraires. En Belgique, c'est Déborah Damblon qui a lu votre conte, Reynald. Déborah.
Ah oui, eh bien, Reynald, vous m'avez attrapé. Là, vous m'avez emmené, vous m'avez emporté. Vraiment, quel tourbillon. Parce qu'en trois phrases de votre écriture, que je trouve vraiment incroyable, bah, moi, j'étais dans votre monde. Bon, faut dire que je suis un peu acquise, parce que le monde du conte, j'adore. Mais je trouve que vous l'exploitez à merveille, que vous en jouez avec brio, puis que vous le remettez au goût du jour, et c'est vraiment de belle façon. Et bref, votre texte, il est pas très très long, mais moi, j'ai l'impression d'avoir fait un long, immense voyage.
Bien.
Que dire après ça? Merci.
Vous avez bien fait venir aujourd'hui, vous. Hein. Dominique, pour la Suisse, qu'en pensez-vous?
Ben moi, comme j'adore qu'on me raconte une histoire, j'ai dévoré ce livre. Voilà. J'ai trouvé ce conte sur Luz Nieves extrêmement poétique et je l'ai suivi avec passion. Mais là où j'ai un peu coincé, c'est à la page 88, où j'ai ressenti comme une grande frustration l'abandon total de ce personnage, l'apparition un peu décalée des personnages suivants. J'avais l'impression d'être dans un film avec une coupure de courant au milieu, l'électricité revient et hop, c'est un autre film. J'ai pas suivi là,
Alors, c'est vrai, je reconnais. Il y a une césure assez brutale à partir de la page 88. Il faut savoir que la page 88 a une signification très particulière. Dans l'histoire, on ne va pas tout raconter, mais il y a un fameux livre qui reste bloqué à la page 88 dans l'histoire. Et vous, ce que vous avez fait, Reynald, c'est que vous avez arrêté aussi brutalement votre histoire à la page 88 pour partir sur une autre histoire parallèle qui met en scène un exilé danois qui rencontre une jeune fille qui est partie, elle, sur les traces de Luz Nieves. Et il lui dit « Comment peut-on partir à la recherche d'un personnage de fiction ?» Alors on est perdu, parce qu'on ne sait pas si on est dans la réalité, dans la fiction, dans une autre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ah, ça veut dire que la fiction, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la magie, en fait. On peut imaginer quelque chose d'absolument féerique. Je crois vraiment que la fiction, une de ses qualités, c'est de pouvoir mettre en abîme, mettre des choses dans des tiroirs. On peut imaginer, pendant toute la première moitié du récit, un personnage à qui il arrive un certain nombre de choses. Ce personnage, on le délaisse. Puis un deuxième récit qui, en miroir, reprend chacune des étapes du premier récit et qui se construit comme une recherche du personnage de la première partie. Au fond, toute proportion gardée et puis toute prétention bue, c'est ce qu'ont fait avant moi des tas d'écrivains. Ouais, parce que, c'est, je veux dire, les deux volumes de Don Quichotte sont construits sur cette idée-là. Il me semble que c'est quelque chose qu'on peut faire en littérature et puis frustrer le lecteur. C'est vrai que c'est quelque chose qui heurte profondément la sensibilité de l'auteur que je suis, mais je crois que c'est quelque chose qui est parfois bon pour le lecteur aussi.
Vous en profitez en tout cas une fois encore pour évoquer les migrations. Parce que Luz Nieves est obligée de partir, elle est recueillie par une famille en Suisse, à Zurich. Et là, dans cette deuxième partie, dans cette deuxième histoire, on rencontre ce fameux Sven, qui est un Danois, qui lui aussi est parti de son pays parce que lui, il s'ennuyait. Il part à la quête de quelque chose, mais c'est pas toujours salutaire, une migration.
Non, ça l'est pas. Et vraiment, j'avais envie, à travers ces deux récits emboîtés, de traiter deux manières différentes de migrer, si on veut. C'est-à-dire Luz Nieves qui se fait adopter en Suisse, personnage du Sud, si on veut, qui se fait adopter dans un pays du Nord. Et puis, en contrepartie, ces personnages du Nord, ici scandinaves, qui partent s'exiler, expatrier en Amérique centrale. Et puis, ces destins, comme ça, qui sont marqués à un moment donné par une césure. Et puis, ces deux manière de vivre
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça, ces migrations mal vécues ou en tout cas provoquées par un mal-être?
Ce que ça veut dire, c'est que simplement, c'est des possibles. Après, je ne sais pas le sens qu'il faut donner absolument à ces migrations. Je n'ai pas la prétention du tout de dire quelque chose de l'adoption ou de dire quelque chose de l'expatriation. Juste des cas singuliers qui me semblent représentatifs d'un certain nombre de choses. Mais après, il n'y a pas un sens général qu'il faut chercher derrière ces destins qui sont singuliers.
Pas de message?
Non, pas de message.
Aucun message?
J'ai dit tout ce que j'ai envie de dire dans le conte, et puis on le prend ou pas, et puis qu'on interprète ou non.
On l'interprète, oui.
Voilà.
Forcément, on l'interprète.
Forcément.
Bon, interprétez ce livre, c'est à vous de juger, vous qui nous écoutez. La véritable histoire de Luz Nieves de Reynald Freudiger, paru aux éditions de L'Air. Merci beaucoup, Reynald.
Merci à vous.
Merci d'être venu dans la librairie francophone. On poursuit avec la chronique des libraires, on termine même dans cette plus grande librairie du monde. Tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur, on commence avec le coup de gueule de notre nouveau libraire français, Thomas Hausser. C'est à vous.
Eh ben oui, donc un coup de gueule. Alors, j'ai envie de dire un épiphénomène en librairie. Il y a un côté un petit peu arrière-boutique, mais moi je vais vous parler en fait du fait que ça m'est arrivé 3 fois en 10 ans, mais là très récemment, un éditeur n'a pas fait appel à un libraire. C'est-à-dire qu'un comité d'entreprise voulait acheter des centaines de bandes dessinées pour ses employés et du coup a eu vendre ça par le comité d'entreprise et n'a pas fait appel à nous. Donc ils ont essayé de les vendre directement à notre client qui nous en a informé.
L'éditeur
en plus, l'éditeur belge. En plus avec une remise, ce qui est interdit en France, qu'on sait tous que le prix est unique. Ouais. Alors du coup, nous, on a dû expliquer ça à notre client, qui est en plus de très bonne composition, donc il est revenu vers nous. Je peux pas donner de nom parce que l'affaire est en cours.
Mais c'est un éditeur connu ?
Ah oui, c'est un éditeur très connu.
Ouais. Ah
oui ? Oui. Nous, on a trouvé ça scandaleux dans la boutique, mes collègues et moi. Je sais que c'est déjà arrivé à d'autres confrères. Donc voilà. Un scandale.
Un scandale. Il faut le souligner, vous avez raison. Il faut dénoncer les choses parfois. Dénoncer. Et il faut protéger et défendre les librairies indépendantes. On sera toujours à vos côtés pour ça. Merci. Le coup de cœur de Dominique Bressou en Suisse, justement, dans le rayon des bandes dessinées avec ce fameux éditeur belge. Non, je sais pas. Allez-y, Dominique.
Alors, c'est pour Lady of Shalott de Seppi. C'est une BD sur une enquête policière qui se déroule à Genève. Et Seppi reprend des personnages déjà présents dans des BD précédentes pour nous emmener dans une enquête haletante sur une série de meurtres sordides dans le milieu artistique de Genève. C'est passionnant, les illustrations des quartiers de Genève sont d'une précision incroyable et l'intrigue est super bien structurée. Bien. Du très bon Seppi à lire, relire et carrément re-relire.
Et c'est aux éditions du Lombard.
Du Lombard.
Voilà. Mais on dit rien, hein, les pauvres, ils n'ont probablement rien fait. On va aller avec un autre coup de cœur en Belgique avec Déborah Damblon, un coup de cœur pour les enfants, Déborah.
Mais oui, Emmanuel, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, quand vous avez commencé à apprendre à lire?
Oui, il y a 3-4 ans. Oui. Allez-y.
Mais voilà, il n'y a pas si longtemps, je l'ai dit. Oui. Mais vous savez,
avant,
c'est un moment...
une escroquerie avant.
Voilà. Allez-y. Eh bien... visiblement, on a bien fait ça chez vous puisque vous êtes passionné de livres. C'est vraiment un moment crucial. Si on donne pas les bons livres aux enfants, eh ben, ils peuvent se décourager. Alors moi, j'ai un très, très chouette coup de cœur à partager avec vous. C'est une nouvelle série. Elle est écrite par Fabienne Blanchu. C'est Emma et Loustic. C'est des chouettes personnages attachants d'une petite fille et son fripon de chat. Et puis, c'est des très, très bonnes histoires.
Aux éditions Albin Michel Jeunesse. Merci, Déborah. Un autre coup de cœur, un coup de gueule avec Jérémy Laniel.
Quoi d'autre ?
Je me disais, il est sympa, mais non. Un coup de gueule, allons-y, ça faisait longtemps. Jérémy.
Mais oui, Emmanuel, aussi certain que le soleil se lève le matin, en janvier, les librairies croulent sous les livres de diète, de remise en forme, de comment bien manger, de comment passer son année 2018 en mangeant vert. Eh bien, nous, pauvres libraires, on essaie de se sortir la tête de l'eau de la dernière rentrée littéraire, de la saison des prix. Est-ce qu'on peut commencer l'année en paix? Est-ce qu'on peut lire tranquillement, Diantre? C'est tout ce que je demande. On sait que la rentrée printanière s'en vient. Est-ce qu'on peut avoir des livres, de la fiction et lire tranquillement? La remise en forme sera pour une autre fois, Emmanuel.
Régime, tout ça. Oui. Je ne sais pas, Jacques Weber, vous êtes au régime, non ?
Oui, mais je n'ai pas besoin de dire toutes ces conneries. Mais il a tout à fait raison, là.
Bon, vous m'avez confié que vous mangiez léger en ce moment.
Bah,
je me suis dit...
je mange moins, parce que je me dis, bon, je me sens mieux. Puis voilà, on ne va pas se faire chier. Il a raison. Bravo, il a vachement raison.
Bon, merci à tous les quatre. Merci à vous.
La librairie francophone... Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe Bon Voyage Organisation avec un extrait de Goma. Bon Voyage Organisation, Goma, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci beaucoup, Jacques Weber.
Merci à vous.
Il est déjà debout parce qu'il a un rendez-vous, il s'échappe. À bientôt, Jacques. Merci à la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Patrick Henry, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère et Julie Leclerc en France, Martine Béguin-Follé et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, la comédienne Isabelle Carré et l'écrivain Jean-Noël Pancrazi, entre autres. Passez une bonne semaine, un bon week-end. À bientôt. Salut.